Bonjour à tous.
Oh, c'est fort là. Dis donc.
Alors, il y a quelques jours, je disais à Vincent que ma plus grande crainte lorsque j'apporte un message, c'est qu'il vienne de moi et non du Seigneur. Que ce soit mon orgueil, ma prétention, qui me le dicte, parce que je pense que ça peut arriver, et non le Saint-Esprit. Alors la prétention, qu'est-ce que c'est? C'est la revendication d'un droit réel ou supposé. C'est l'estime vaniteuse de soi-même. C'est pas très glorifiant. La vanité, ça vient de vain. C'est inconsistant, frivole, c'est le caractère d'une personne prétentieuse, imbue d'elle-même. L'orgueil, c'est l'estime excessive de soi. Et l'orgueil est un péché. Alors ma femme me reproche de mettre trop souvent Dieu au premier plan, dans tout. Il y a un problème. Dieu est la solution. Mais moi, je sais qu'il est le Créateur, le Tout-Puissant. Prendre conseil, se reposer sur lui, pour moi, c'est être vainqueur, parce qu'il a toujours une solution, qui nous paraît parfois peut-être pas évidente, mais elle est là, elle existe. Christine me dit, donc Christine, c'est ma femme, que tout tourne autour de Dieu, et j'ai un problème, c'est que je veux toujours avoir raison sur ce sujet. Dieu a dit, Dieu a fait, si tu te tournes vers Dieu, tu auras telle solution. Elle me dit que je veux toujours avoir le dernier mot sur ce sujet. Alors je me dis, suis-je vraiment comme ça? Ne pas y réfléchir, je me suis dit que c'était de l'orgueil, de la prétention, de la vanité. Alors, quand je me pose ce genre de questions, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prie. Dans ce cas, je prie. Je demande au Seigneur de me confirmer si c'est la bonne direction, le bon chemin, celui qu'il me demande de prendre. Et j'attends de lui une réponse. Tout à l'heure, notre frère Moïse parlait de cela. Est-ce que l'on a eu des bénédictions? Est-ce que l'on a eu des réponses pendant cette semaine? Alors moi, je vais vous dire, j'ai eu une réponse. Mercredi 24, j'étais dans la préparation du message, déjà depuis quelque temps, parce que c'est quelque chose qui mûrit, ça ne vient, pour moi, ça ne vient pas tout de suite. Il y a des mots qui arrivent et je me tourne vers le Seigneur pour justement savoir si c'est bien le sujet que je dois aborder, qu'il veut que j'aborde. Alors, mercredi 24 juin, j'ouvre à cette date un calendrier d'études bibliques journalières. Mais c'est un calendrier d'études bibliques journalières vieux de 20 ans. Donc je les garde tous, j'arrache jamais les feuilles, je les garde tous et de temps en temps je les relis comme ça. Et celui-ci, je le prends, je l'ouvre, je le prends providentiellement et je l'ouvre à la page du jour. Et il y a un mot qui est mis en évidence. Et c'est un de ces mots sur lequel repose le message. Je me dis, tiens, là, il y a une réponse. Et puis le lendemain, deuxième confirmation, j'étais au téléphone avec Jérémy, on échangeait. Je ne lui parle pas, bien sûr, du sujet du message. Et plusieurs fois, peut-être même en décalé, il, un peu hors du sujet de notre discussion, il me fait « il faut être humble ». Il faut être humble. Alors, dans le calendrier que j'avais ouvert, les mots qui... Le mot, c'était humilier. Et les mots qui me venaient pour la trame du message, c'était humilier, humilité, humble. C'était les mots-clés du message d'aujourd'hui. Alors, bien sûr, vous me connaissez. J'aime bien connaître le sens des mots. C'est par curiosité, mais aussi pour, je dirais, pour m'instruire, parce que des fois, on emploie des mots, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent dire. Alors, dans le dictionnaire, humilité, c'est un état d'esprit, l'attitude d'une personne qui s'abaisse volontairement par sentiment. Alors, dans ce sens, le sentiment, c'est une connaissance immédiate, une intuition. Donc, une personne qui s'abaisse volontairement par sentiment de sa faiblesse, par connaissance immédiate de sa faiblesse, par intuition de sa faiblesse, de son insuffisance. Alors, le dico donne un exemple. En toute humilité, ce qui veut dire très humblement, et l'humilité, c'est un caractère de ce qui est humble, sans éclat. Humilier, c'est rendre humble, rabaisser, faire apparaître comme méprisable, inférieur. Humilier quelqu'un par des railleries, des moqueries. On peut trouver plein de façons de le faire. Hein. On voit une personne et dit « Oh, t'es gros !» Puis en général, on le fait en public hein, pour bien le casser, comme on dit. T'es maigre, t'es chauve. On peut trouver plein d'autres choses. Hein. En général, des choses qui blessent, justement. Se faire humble, c'est s'abaisser volontairement. Par exemple, on s'humilie devant un vainqueur. Être humble, qui est conscient de ses limites et le manifeste par un comportement effacé, modeste. On nous dit aussi dans le dictionnaire qui est de condition modeste. Il y avait une expression qui a été utilisée avant, les humbles. C'était les petites gens, les méprisables. Humble, qui est sans prétention, sans envergure. On pourrait utiliser le mot inutile. Or, moi, ces définitions, ça m'a choqué. Dans chacune de ces définitions, il y a un rapport du fort et du faible. Bon, le fort sur le faible, bien sûr. Et moi, je me suis dit que, avec tout ce que j'ai pu lire dans la parole, il me semble que les définitions du dictionnaire, ce ne sont pas celles de Dieu. Avec les hommes, le sens de ces mots signifie faiblesse, être mis en état de faiblesse. Avec Dieu, c'est autre chose. Bien sûr, s'humilier devant Dieu, être humble, devant lui, ça me paraît normal. C'est un sentiment que l'on doit obligatoirement avoir. C'est une connaissance immédiate, c'est plus qu'une intuition. Dieu est le Créateur, Dieu est tout-puissant. S'humilier, être humble, oui, mais Dieu, à la différence des hommes, ne va pas nous rabaisser, nous railler, si nous sommes humbles devant lui. Devant Dieu, s'humilier, ça doit venir de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qu'il nous demande, c'est devant sa grandeur. On ne peut que s'humilier. Alors il y a une chose que Dieu a en horreur, c'est que l'on se glorifie soi-même. Si nous agissons de la sorte, nous risquons à coup sûr d'être un jour ou l'autre remis à notre place. Alors on va aller dans Romains 12, le verset 16. Romains 12, verset 16 nous dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » On va poursuivre avec Luc, chapitre 1, les versets 51 et 52. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a fait descendre les puissants de leur trône. Et à la fin de ce passage, il nous est dit « Élevez les humbles ». Moi, je pense que oui, pour une personne qui est sur un trône, qui a une puissance, le faire descendre de ce trône, c'est une humiliation. Mais c'est parce que ces personnes sont orgueilleuses qu'il le fait, sinon il ne le ferait pas. Dans Sophonie, chapitre 2, le verset 3, il nous est dit « Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles de la terre, qui exécutez son ordre. » Je pense que cette dernière phrase, « qui exécutait son ordre » est importante. Cherchez la justice, cherchez l'humilité. Et il nous est dit, dans ce cas, peut-être serez-vous préservés au jour de la colère de l'Éternel. Donc il faut qu'on soit bien dans les clous, hein. Alors j'ai cherché dans la parole des personnes qui avaient fait des personnages, qui avaient fait preuve d'une grande humilité. Alors je ne vais pas en citer une quantité, je vais juste parler de l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul a fait preuve d'une grande humilité. Et je dis que pourtant, la mission qu'il a accomplie est grande, très grande. Et il nous dit dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 15, « Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. » Et dans certaines versions de la parole, il est dit « le pire ». Donc quand on sait ce qu'il a fait, je pense pas que je serais contredit si je dis que si on est là, c'est un peu à cause, grâce du travail que Paul a fait. Dans Éphésiens 4, les versets 1 et 2, il nous est dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation ». Alors ce qui rejoint pour moi Sophonie 2, verset 3, où il nous est dit d'exécuter son ordre. Donc je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Alors quand il nous est dit marcher d'une manière digne de la vocation, en toute humilité et douceur, moi je voyais une armée qui marchait, une armée de conquérants, et je me dis, eux ils font du bruit, nous on ne doit pas marcher comme ça. On doit marcher avec douceur, en toute humilité. De toute façon, ce n'est pas le bruit des pas qui compte. Parce qu'au bout, on est vainqueur avec le Seigneur. Alors, je vais vous lire ce qu'un frère dont je n'ai pas le nom a écrit. Marcher avec Dieu, il n'y a pas de plus grand honneur. Lorsque l'on sait que Dieu nous a choisis pour accomplir en son nom une grande mission, c'est un grand honneur. Plus l'honneur est grand, plus l'on doit s'humilier. Je me suis dit que celui qui a écrit ça, il était vraiment inspiré. Ceux qui se glorifient eux-mêmes seront humiliés un jour ou l'autre par le Seigneur. Ceux qui s'humilient au pied du Seigneur sont ceux que le Seigneur élève aux plus hautes fonctions. L'humilité ne signifie pas que nous devons nous considérer comme étant de peu de valeur, mais signifie que nous devons moins penser à nous-mêmes. Alors j'ai parlé de Paul l'apôtre, mais de nos jours, y a-t-il des personnes qui nous semblent avoir fait preuve d'humilité selon la vision de Dieu, ses directives? Est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent à l'esprit? Moi, je vais vous en citer un. Henri Grouès. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Henri Grouès. Grouès. Non, ça ne vous dit rien. Alors, si je vous dis l'abbé Pierre, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est son nom. Alors, je vais retracer un petit peu son parcours rapidement. Il entre dans la résistance lors de la Deuxième Guerre mondiale. À la Libération, il devient député, 1945 à 1951. Donc, on voit qu'il a une fonction importante et qu'il, je pense, pourrait grandir dans cette fonction au niveau de l'État. Mais en 1949, je pense qu'il utilise justement cette fonction de député pour créer, en 1949, la communauté des chiffonniers d'Emmaüs. Et le restant de sa vie, il se consacre à la lutte contre la pauvreté et la défense des sans-logis. Il a fait passer. Il aurait pu avoir une grande carrière autre que religieuse. Et il a fait passer les autres avant lui. On peut en citer d'autres. Mère Teresa, Sœur Emmanuel. Bon, je ne vais pas retracer leur carrière. Alors, si Paul fait preuve d'humilité, d'un point de vue humain, c'est de l'humiliation. Alors, à ses yeux, cela lui donne un avantage à Paul de s'humilier, d'être humilié. On va aller voir dans Philippiens 4, les versets 12 et 13, où il nous dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Et il conclut, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors quand j'ai lu ce passage, moi ce que j'y comprends, c'est qu'il est à l'aise partout, en tout lieu, en tout milieu, en toute situation. Et il l'est grâce à Dieu. Alors Paul nous dit encore dans Philippiens 2, les versets 3 à 5. Philippiens 2, versets 3 à 5. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. Ça, c'est une phrase importante. Alors, supérieur, comment on peut trouver chez d'autres une supériorité? Bah, par exemple, tiens, je vais prendre Laurent. Il sait jouer d'un instrument. Moi, je ne sais pas. Tu es supérieur à moi. Et puis, plein d'autres, on peut prendre plein d'autres exemples. Je ne connais pas les métiers de tout le monde. Je crois qu'il y a un cuisinier. C'est ça, Franz? Bon, tu fais des bons petits plats. Ouais. Bah moi, des œufs sur le plat et des œufs à la coque, et puis ça se, et des pâtes, et ça se limite à ça. Hein. Voilà. Donc on peut, il y a toujours un moment où la personne qui est en face de nous, elle est supérieure. Et puis on peut trouver plein d'exemples. Hein. Alors l'homme utilise pour montrer, étaler sa puissance, sa supériorité, pour rabaisser son prochain, en fait. Pour rabaisser son prochain, il utilise l'humiliation. On peut prendre aussi des exemples. Un patron face à son employé ou un chef, un supérieur. Et Katia pourrait nous en témoigner. Elle vit en ce moment des moments pas faciles. Donc, priez pour elle. Un mari envers sa femme. Ouais, moi je travaille, j'apporte l'argent, toi tu fais rien, tu es sans boulot. Ça peut être l'inverse aussi, hein, évidemment. Hein. Ou moi je gagne plus que toi, que deviendrait le foyer sans moi. Bon, voilà. On peut, c'est une humiliation, ça aussi. Un pays aussi battant un autre pays lors d'un conflit. En général, le pays vainqueur, il humilie l'autre. Je vais vous citer un exemple. Un exemple qui a existé, qui est réel. Fin de Seconde Guerre mondiale, dans les pays vainqueurs, il y a la Russie. Et la Russie fait beaucoup de prisonniers allemands. Et que font les Russes pour humilier leurs prisonniers ? Pendant plusieurs jours, ils ne leur donnent pas à manger. Et après, ils leur donnent de la soupe aux choux. Je peux vous dire que, à l'intérieur, c'était pas beau à voir. Et ils les font défiler dans les rues de Moscou. Les prisonniers allemands sont vraiment, ont les intestins en mauvais état, ils ne peuvent pas se retenir, et en marchant, ils font leurs besoins sur la route, devant tout le peuple russe qui était là pour saluer à la fois les vainqueurs et railler les vaincus. J'imagine l'humiliation. Même s'ils avaient des choses à se reprocher, ces soldats, pas tous, hein. Ils étaient enrôlés, ils étaient là, ils ne pouvaient pas faire autrement. Voilà une forme d'humiliation à l'extrême, je pense. Hein. Alors moi, je vais vous dire, Dieu ne cherche pas à nous humilier. Il veut que l'on soit humilié, que l'on cherche l'humilité, que l'on soit humble, pardon, que l'on cherche l'humilité. C'est de cette façon que nous pouvons nous rapprocher de lui. Moi, devant Dieu, on ne peut être que humble. Hein. Alors, être humble, chercher l'humilité, ça nous apporte quoi? Alors, j'ai cherché dans les Écritures quelques affirmations et il y a des bénédictions qui suivent. On va aller dans le psaume 10, le verset 14. Tu entends les désirs des humbles, éternels. Tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille. Amen. Dieu entend les humbles. Il les écoute. Il les rend forts. Et orgueilleux, je ne pense pas qu'il ait la même réponse. Dans le psaume 25, les versets 8 à 10, il nous est dit « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. Amen. » On voit déjà que lorsque l'on est humble devant Dieu, il y a des résultats. On va continuer avec Proverbe, chapitre 16, les versets 18 à 20. L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. Mieux vaut s'abaisser avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui discerne la parole trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Amen. Ésaïe 29, 19. Les humbles auront de plus en plus de joie en l'Éternel, et les pauvres parmi les humains feront du Saint Israël leur allégresse. Amen. Il y a d'autres exemples encore. Jacques 4, les versets 5 et 6. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous, mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Être humble devant Dieu donne de grands avantages. Jacques 4, 10 nous dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Or, après avoir lu tous ces passages, je me suis demandé, alors c'est peut-être une interprétation de ma part, hein, je me suis demandé si ceux qui sont appelés les humbles, ce ne sont pas en fait ceux qui connaissent Dieu. Les autres à ses yeux sont les orgueilleux, les vaniteux, les prétentieux. Et je les rassure pour cela, car Dieu les aime, il a envoyé le plus humble d'entre les humbles. Celui qui a été annoncé dans Zacharie 9, verset 9, il nous est dit, c'est la fin du verset, « Voici ton roi, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Oui, Jésus-Christ, Fils de Dieu, a pris sur lui, sur la croix, notre péché à tous, mais je dirais aussi des humiliations que les hommes savent infliger aux autres hommes. Jésus, il a été trahi, il a été fouetté, on lui a craché au visage, on l'a couvert de quolibets. Et pourtant, Jésus-Christ, à qui Dieu le Père pouvait donner à l'instant plus de 12 légions d'anges, c'est dans Matthieu 26, le verset 53, s'est fait humble. Il s'est humilié. Je peux vous dire qu'on le sait tous, hein. Il s'est humilié et pourtant il avait une puissance, bien des fois. Il a montré sa puissance, sa grandeur. Alors, je me suis dit que s'il ne l'avait pas fait, s'il n'avait pas montré sa grandeur, son abaissement n'aurait pas eu la même valeur, le même impact. Un mot de lui, un regard, un geste, et il y avait des guérisons, des miracles autour de lui. Oui, je me dis qu'une personne forte, puissante, qui se fait humble, ça donne de la valeur à son acte. Dans Philippiens 2, les versets 8 à 11, il nous est dit « Il s'est humilié lui-même ». Tout à l'heure, je vous disais, notre humilité doit venir de nous-mêmes. C'est vrai que dans la parole, il est dit que nous devons être des imitateurs du Seigneur. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, être humble, s'humilier, je vais dire dans le sens biblique, c'est penser aux autres, se mettre de côté, penser moins à soi. Ça revient un petit peu au message de Lionel de la semaine dernière. Son prochain. Alors j'ai cherché une définition du prochain, Lionel. C'est, on dit aussi son semblable. Alors, sur la croix, Jésus s'est fait humble. Il a pensé à nous, pas à lui. Il aurait pu dire j'arrête tout, c'était possible, mais non. Il a pensé à nous, pas à lui. Dans Philippiens 2, verset 5, il nous est dit « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ ». Je pense que c'est ça le fil conducteur que l'on doit avoir. Être humble comme lui, penser aux autres, ne pas se mettre en avant, mais être là. Alors, c'est vrai que quand on voit les définitions du dictionnaire, on n'a pas forcément envie d'être humble. Mais nous, les humbles, les humbles de Dieu. Nous ne sommes pas des perdants, nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ. Et puis je me suis dit, quand on voit une personne qui est tombée, je dirais une personne qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, une personne qui est à terre, si on veut la relever, ce n'est pas en faisant comme ça. On doit s'abaisser aussi pour le relever, pour l'aider. Alors je pense que c'est ce que nous devons faire. Nous abaisser. Nous abaisser devant Dieu, mais aussi devenir humble pour aider les autres à rencontrer le Seigneur. Alors je vais finir et je vais vous dire, j'espère ne pas vous avoir paru orgueilleux, vaniteux ou prétentieux avec mes propos, parce que bon, je ne suis pas parfait. Hein. Alors je vais faire comme Paul, mais je vais vous dire en tout cas, moi je vous l'affirme, si Paul se dit le premier des pêcheurs, moi je ne suis pas le dernier, hein. Je suis peut-être pas le premier, mais je suis pas blanc comme neige, hein. Alors que Dieu me pardonne et que Dieu vous bénisse.